Radio Kapi. Oh, Kapi. Affaire Matéka pour le journal.
Les titres de l'actualité au Nord Kivu, 1500 personnes qui vivent en famille d'accueil suite à l'insécurité causée par des hommes armés qui les menacent des morts à Burungu Mweso, selon Ocha. Cet organisme onusien signale par ailleurs le retour de 16 000 habitants de Muhangi qui avaient fui elle aussi l'insécurité. C'est demain Noël. Les préparatifs de la fête de la Nativité sont plutôt moroses à Beni au lendemain du nouveau massacre attribué aux rebelles ougandais de l'ADF. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola. Et puis la croissance a augmenté en RDC par rapport à 2017, reconnaît le gouverneur de la Banque centrale du Congo lors de la réunion du comité de pilote de politique monétaire. Et puis notre invité, c'est le président de la Société civile de l'Équateur. Fabien Mungunza donne son avis sur la concertation initiée à Mbandaka par la MONUSCO entre partis politiques et la société civile. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez qu'un Antonov affrété par les FARDC a fait un crash cet après-midi à l'aéroport de Mavivi en ville de Beni au Nord Kivu. Selon des sources aéroportuaires, l'appareil qui transportait des militaires venus de Goma et déployé à Beni a raté l'atterrissage avant de quitter la piste. D'après la même source, l'avion a pris feu. L'unité anti-incendie de la MONUSCO est intervenue. Aucun bilan n'est encore disponible, mais les sources militaires parle de plusieurs blessés graves parmi les passagers. Nord Kivu, encore plusieurs mouvements de population ont été enregistrés sur l'axe Mweso-Burungu dans le territoire de Masisi depuis novembre dernier, selon Ocha. Cet organisme onusien signale par ailleurs le retour progressif d'au moins 16 000 personnes dans les territoires de Lubero. À Goma, Denis Lukeso.
Dans sa note d'information parue ce lundi, Ocha indique qu'à Burungu, territoire de Masisi, 1500 personnes serrées en famille d'accueil suite à l'insécurité permanente causée par des hommes armés, les pillages récurrents ainsi que les menaces des morts. Plus de 500 personnes en provenance de Kiyeye, Kinyati, Buchana, Taka seraient arrivées à Mweso pour fuir les affrontements entre groupes armés poursuit Ocha. Par ailleurs, un autre mouvement d'à peu près 400 personnes aurait eu lieu au cours de la seconde moitié de novembre. Ces déplacés en provenance de Kitobo et des alentours seraient arrivés sur les sites des déplacés de Bukombo pour se mettre à l'abri des affrontements entre groupes armés récurrents dans cette région. Par ailleurs, dans les territoires de Lubero, Ocha signale le retour progressif d'environ 16 000 habitants résidant le long de l'axe Butembo-Muhangi. Une accalmie sécuritaire relative observée dans la région et les conditions de vie difficiles dans les zones d'accueil seraient parmi les facteurs ayant déclenché ces mouvements de retour. La majorité des personnes retournées présenteraient plusieurs besoins humanitaires. Alerte Ocha.
Et puis, après trois nuits passées entre les mains de leurs ravisseurs, 30 personnes enlevées dans leur champ vendredi dernier à Rukoro ont été relâchées ce lundi matin à 60 km au nord de Goma. La société civile de Rutshuru affirme que les ravisseurs ont exigé la somme de $200 américains de rançon pour chacun d'eux. La source ajoute qu'un suspect qui avait collaboré avec les malfrats est aux arrêts en ce moment. Manifestation ce lundi, des centaines de déplacés à Nyabiondo pour dénoncer l'insécurité dans cette zone située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Il déplore par ailleurs le meurtre du chauffeur du PAM le 17 décembre dernier sur l'axe Masisi-Nyabiondo alors qu'il transportait des vivres leur destinés. Le président de ces déplacés demande à la direction du PAM de reprendre ses interventions dans la région. Imani Justin est joint par Bernard Denyangui.
Notre chauffeur du PAM venait nous assister. Malheureusement, il a été tué à Luachi. Par conséquent, nous sommes inquiets de cette situation et nous disons non aux tueries, non au kidnapping des humanitaires en territoire de Masisi et particulièrement ici à Nyabiondo, au secteur Osobanyungu. Nous demandons à tous les services de l'État, les FARDC, l'ANR, de rechercher les bandits armés qui se démobilisent ou bien de les raver des armes par force. À part ça, aux humanitaires, notamment aux PAM, de revoir leur décision de suspendre les activités en territoire de Masisi. Sinon, certains des déplacés ont bénéficié de cette assistance, mais on a interrompu lorsqu'il y avait encore plus de 300 ménages de déplacés qui n'avaient pas encore bénéficié et les vivres sont retournés encore à Goma. Alors ici, les vulnérables déplacés sont en train de déplorer parce que la famine, c'est très grave, et particulièrement ici à Nyabiondo et ses environs.
Je rappelle que sur 15 000 déplacés vivants en ce moment à Niabiondo, depuis 4 mois, un tiers n'a pas reçu d'assistance. Autre nouvelle sur Radio Okapi, c'est demain Noël. Les préparatifs de la fête de la Nativité sont plutôt moroses dans la ville de Beni au lendemain des nouveaux massacres attribués le week-end dernier aux rebelles ougandais de l'ADF. Le point de la situation avec vous, c'est Kombi Katondolo.
Pas de guirlandes ni objets de décoration placés devant les grandes places en ville de Beni. Selon plusieurs personnes à qui nous avons posé la question de savoir comment ils comptent-ils passer le fête des fins d'année, tous ou presque disent qu'il est difficile de fêter au moment où l'insécurité bat son plein en ville de Beni, aggravée par Ebola qui sévit dans la zone. Queen Bendele est tenancière d'un restaurant en ville de Beni.
Bon, moi, je trouve qu'il n'y aura pas de fête parce que chez nous, ici, il y a Ebola et en plus, l'insécurité persiste toujours. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, vraiment, je prépare pas mon Noël.
À cela, il faut ajouter la longue période des campagnes électorales qui a pris fin le vendredi dernier. S'il est vrai que l'insécurité et Ebola freinent les ardeurs des uns, ce n'est pas le cas pour d'autres qui comptent malgré tout fêter. C'est le cas de Peak Club qui a lancé ce week-end une foire d'amusement. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, des agents de la division de mines ont manifesté ce matin devant le bureau de leur chef nommé par le ministre des tutelles à Kinshasa. Ils ont brûlé à l'occasion des pneus et séquestré quelques agents trouvés à l'intérieur du bâtiment. Ils demandent aux autorités de remettre sur la liste des nouveaux matriculés une centaine de leurs collègues rejetés puisque proposés par l'ancien chef de division. Un des manifestants s'est confié à Sadiki Aboubakar.
Nous réclamons d'abord que la division de mines ait un chef, un seul. Et s'il y a deux chefs, on ne va pas continuer à travailler dans ce désordre. C'est ça notre souci majeur. Deuxième chose, il faut qu'on réintègre dans la liste les noms des gens qu'on a omis volontairement. C'est ce qui pose problème chez nous. Les agents actifs ici sur place, leurs noms ne sont pas repris dans la liste. Ils sont omis volontairement. Et sur 286 agents sur la liste qui sont admis sous statut, on a compris qu'on a seulement 64 agents qui sont actifs ici sur place. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas même. Ce sont des fictifs.
Et maintenant, est-ce que vous avez vu l'autorité?
On a vu l'autorité depuis le dimanche. Il n'y a pas une solution. On a tâté par-ci par-là. C'est pour cette raison qu'il y a eu une telle revendication. Si c'est imposé au niveau de la province, que Kinshasa nous donne une solution.
Le gouverneur intérimaire appelle ses agents au calme. Pacific Keta affirme qu'une commission sera mise en place bientôt pour confectionner une nouvelle liste à proposer au ministère de la fonction publique. En plus bref, deux morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'une forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit de samedi à dimanche. Selon Douglas Nkoulou, bourgmestre de la commune de Limété, l'une des victimes est morte électrocutée et l'autre est décédée suite à l'écroulement des murs. D'autres dégâts sont signalé dans la commune de Njili suite à des inondations au quartier 5 et 11. L'activité économique de la RDC demeure relativement stable. La croissance a légèrement augmenté par rapport à 2017, a reconnu le gouverneur de la Banque centrale du Congo lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire de l'Institut des missions. Daniel Tamizoni.
Le solde des opérations des finances publiques est déficitaire de 17 milliards de francs congolais pour le mois de novembre et 146,8 milliards de francs congolais au 19 décembre. Le déficit est dû à une expansion des dépenses publiques face à un tarissement des recettes. Cependant, malgré le déficit, fait savoir le comité de politique monétaire de la Banque centrale, le marché de change n'est pas perturbé en cette fin de l'année, marquée de plus par l'organisation des élections. Les réserves en devises étrangères se situent à plus d'un milliard de dollars américains, ce qui fait dire au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Déogracias Motombo.
Nous, au niveau de la Banque centrale, en coordination avec le ministère des Finances et même le ministère du Budget, nous ferons tout notre possible pour maintenir cette stabilité et commencer 2019 également avec l'espoir d'une forte reprise de l'activité économique pour maintenant viser la croissance et l'emploi. La stabilité macroéconomique n'est pas une fin en soi. C'est la croissance et l'emploi.
Maintenir la stabilité veut dire qu'il n'y aura pas de hausse de prix de biens et services sur le marché, car, dit le gouverneur de la Banque centrale, la banque contrôle tous les paramètres du marché.
L'invité. Lancement jeudi dernier à Mbandaka d'un cadre de concertation des parties prenantes au processus électoral. C'est une initiative du chef d'antenne de la MONUSCO Équateur qui regroupera désormais la CENI, les partis politiques et la société civile. Quelle appréciation la société civile fait de cette initiative onusienne? La réponse avec le président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, Fabien Mungunza, et l'invité de Radio Kapi. Il s'entretient avec Paul Richard Malengela.
Monsieur Fabien Mungunza, aujourd'hui vous avez assisté à une rencontre avec le chef d'antenne de la MONUSCO Équateur. Il a été question notamment de mettre sur pied un cadre de concertation entre la société civile, la CENI et la mission en ce qui concerne le processus électoral en cours. Comment avez-vous apprécié cette initiative de la mission onusienne?
Oui, nous avons apprécié cette initiative à sa juste valeur parce que la MONUSCO est dans son rôle. La MONUSCO accompagne la République démocratique du Congo en vue d'assurer sa stabilisation. Et lorsqu'on parle de stabilisation, on fait allusion à la paix. Mais cette paix semble être menacée par les processus électoraux actuels. Et ces processus-là a comme partie prenante la CENI, les partis politiques, mais aussi la société civile. Et donc, pour pouvoir éviter toute crise en rapport avec ces processus, il importe que les parties prenantes que nous venons de citer puissent ensemble se retrouver dans un cadre de dialogue au niveau duquel des solutions peuvent être trouvées à des conflits éventuels pour éviter l'éclatement de la violence qui pourra être nuisible à l'avenir de la province de l'Équateur et en général à l'avenir de la République démocratique du Congo.
Vous conviendrez avec moi qu'il y a longtemps que le processus a déjà pris son élan, mais c'est seulement aujourd'hui que vous venez de lancer cette idée-là ensemble, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment opportunité ou bien il y a eu un retard dans cette initiative-là?
Oui, merci. Nous pensons que la dimension de la MONUSCO Équateur ici a été très sensiblement réduite. C'est maintenant qu'elle vient d'être renforcée par l'arrivée des nouvelles sections. Et nous pensons que c'est ce renforcement-là qui a rendu possible l'organisation à ce moment ici de ce cadre de concertation. Mais nous pensons qu'il vaut mieux tard que jamais. Il existe déjà des cas de concertation au niveau de la CENI avec les acteurs du processus qui font que la CENI puisse rencontrer de façon sporadique chaque composante. Mais la nouveauté en ce qui concerne les cadres qui viennent d'être mis en place, c'est que tous les acteurs sont mis ensemble sous l'accompagnement de la MONUSCO pour nous permettre de réussir ce processus électoral, faire en sorte qu'il soit apaisé, qu'il soit crédible, qu'il puisse donner au pays des dirigeants, n'est-ce pas, dont le pays a besoin, capable de faire en sorte que ce pays puisse se redresser.
Alors, en tant que partie prenante, comment les cadres de concertation de la société civile de l'Équateur comptent s'appliquer pour la réussite de ces nouveaux cadres de concertation qui viennent d'être mis sur pied?
Nous pensons qu'en tant qu'acteur neutre qui ne concourt pas à la conquête du pouvoir, nous croyons pouvoir être l'église au milieu du village pour pouvoir mettre tous les autres acteurs d'accord pour que nous puissions rechercher l'intérêt du plus grand nombre. À travers les plaidoyers, à travers la sensibilisation, à travers l'éducation civique et électorale, nous croyons apporter notre contribution afin que ces processus puissent connaître une issue heureuse.
Comme au niveau du pouvoir central, bien du gouvernement central, on refuse, si je peux m'exprimer ainsi, l'apport ou bien le soutien de la MONUSCO à l'actuel processus électoral. La même tendance se voit également dans la province de l'Équateur. Comment allez-vous convaincre le pouvoir ou le gouvernement provincial à pouvoir accepter le soutien ou bien la main tendue de la MONUSCO pour la stabilisation, pour la réussite de ce processus électoral en cours?
Cette position du gouvernement, nous avons du mal à la partager et surtout à la comprendre. La MONUSCO travaille avec une mission bien précise, lui confiée par les Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies. Et nous sommes en principe partie prenante de toutes les décisions qui sont arrêtées au niveau de New York. Nous prenons part à ces décisions-là. Et nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire à la fois. Parce que nous avons refusé tout appui de l'extérieur. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes à constater que le processus n'est pas prêt. Et déjà, le 23, il n'y aura pas d'élection. On a reporté. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre l'attitude du gouvernement. Qu'est-ce qui est derrière la tête du gouvernement? Certainement pas l'intérêt du pays. Donc ce sont des intérêts égoïstes, n'est-ce pas, de ceux qui sont à la tête de ce pays, qui les conduisent à prendre des positions aussi extrémistes qui ne vont pas dans l'intérêt de la communauté nationale.
Fabien Munguza, président du cadre de concertation provincial de la société civile de l'Équateur, Radio Capi vous dit merci.
Oui, au nom du cadre de concertation provincial de la société civile, nous vous disons merci.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h15.